بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir après la salat de Isha pour étudier un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant cela une parole d'Allah Azza wa Jal, les versets d'introduction de Riyad al-Salihin concernant un babun azim, un chapitre d'une grande importance, babul istiqama. Et l'istiqama, c'est la fermeté. Al-istiqama, c'est la fermeté dans la foi. Al-istiqama, c'est la fermeté dans les bonnes œuvres, dans les bonnes actions. C'est la constance dans les bonnes œuvres, mais également la constance dans la foi. Al-istiqama, c'est rester dans la foi, et rester dans les bonnes actions, rester dans le hadyu nabi sallallahu alayhi wa sallam, des actions accomplies selon le mode prophétique, et rester jusqu'à la mort. Al-istiqama, c'est de ne jamais reculer. L'istiqama, c'est de ne jamais perdre pied. L'istiqama, c'est de ne pas connaître des moments de faiblesse et de ne pas ralentir ni diminuer nos efforts. Mais en aucun cas, Allah Rabbul Izzah attend de nous l'istiqama, la fermeté et la constance, d'où le verset que l'auteur a choisi pour introduire ce chapitre, « Fastaqim kama umirta ». Traduction, on va dire approximative, fastaqim, reste ferme. Kama umirta, comme il t'a été demandé. Et ce verset s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les ordres qui ont été donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela concerne l'ensemble de la umma. Et à partir de ce verset, les mufassirin, rahimahumullah, ils retiennent le fait que le istiqama est un ordre divin. Et l'istiqama est une raya, est un objectif. Et très souvent, lorsque nous accomplissons de bonnes actions, nous nous focalisons sur l'aspect des bonnes actions. Nous nous focalisons sur les périodes où il faut accomplir les bonnes actions. Mais nous oublions parfois qu'il y a des objectifs à atteindre à travers les bonnes actions. Il y a peut-être un passage qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, ça c'est un petit peu plus loin, mais c'est un passage qu'on a lu cet après-midi. Et subhanallah, il n'y a rien qui émerveille autant le croyant que la lecture du Coran, les commentaires du Coran et les commentaires des hadiths. On n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas jour après jour d'apprendre des choses nouvelles et surtout d'apprendre ce qui est profitable et qui fortifie la foi, qui te permet de trouver des réponses. Ça, c'est ajib. Et juste, on fait une petite impasse. C'était un verset qu'on, je pense que ça pour la prochaine fois, lorsque dans la surat Saba, Allah Azza wa Jal nous révèle, A'udhu shaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul innama a'idhukum biwahida, an taqumu lillahi mathna wa furada, thumma tatafakkaru. Et en commentaire, Ibn Uthaymin, rahimahullah, il fait un commentaire magnifique des deux derniers mots, thumma tatafakkaru. Dit que, on va faire un résumé parce que on va le faire bidnillah correctement lundi prochain. Dit que, en plus d'avoir la foi, en plus d'accomplir les bonnes actions, Allah Azza wa Jal attend de l'être humain at-tafakkur, le fait de réfléchir, de méditer sur les actions que tu viens d'accomplir. Et il dit que la yakun kallavi yu'addi a'malahu saliha wa ka'annaha 'adat yaf'aluha kulla yawm. C'est-à-dire, ne sois pas ce croyant qui cumule les bonnes actions et qui les accomplit comme si c'était une routine, sans même y porter attention, sans même s'en rendre compte de l'apport spirituel qu'il doit normalement retrouver à travers ses actions. Et on pourrait prendre comme exemple la salat de Isha qu'on accomplit. Masha'Allah, nous bi'ivnillah, tawfiq min Allah, nous accomplissons le salat de l'Isha tous les soirs. Bi'idhnillah, on ne rate pas une seule salat. On essaie de ne pas rater. Maintenant, le croyant intelligent, c'est celui qui va essayer de réaliser qu'est-ce qu'il a pu retirer spirituellement de cette salat. Et en commenté, donc, Ibn Uthaymin, il donne deux versets pour qu'on ait une idée qu'est-ce qu'Allah Rabbul Izza attend de nous à travers thumma tatafakkaru, réfléchissez. Méditez, pas sur vos péchés, méditez sur les bonnes actions qu'on accomplit. Et là, Cheikh, il donne un exemple, un verset, wasta'inu bis sabri was sala, et l'autre verset, waqimis sala, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Deux versets qui rappellent les objectifs à atteindre à travers la sala. Le deuxième verset est plus connu, c'est la sala qui éloigne du tuapitude et du blâmable. Et le premier verset, wasta'inu bis sabri was sala, cherchez refuge à travers la patience et la prière. Il dit que quand tu as accompli une prière, tu dois normalement trouver plus de force psychologique pour affronter les difficultés de la vie. Parce que tu t'es adressé à Allah Azza wa Jal à travers wa iyyaka nasta'in. Et que c'est auprès de toi que nous cherchons refuge. Théoriquement, tu l'as lu dans la première raka'at, deuxième raka'at, troisième, quatrième raka'at. Il doit y avoir une conviction, une yaqin qui s'installe dans ton cœur et une relation, une confiance en Allah. Ça, c'est l'apport de Wayyaka Nasta'in par rapport à ta capacité à résister aux difficultés de la vie, à ce fameux Wasta'inu bis sabri wa sala. Et l'autre verset, c'est l'éloignement de tout ce qui est haram. Vois, est-ce que la salat de Isha que tu viens d'accomplir, comment est-ce que cela t'a renforcé spirituellement pour que une fois exposé aux réalités de ce dunya, aux fitna qui nous entourent, mais théoriquement, cette salat al-Isha, c'est comme un bonus. L'exemple est un peu bête, hein. C'est comme si vous avez une carte téléphonique où il y a 20 euros et que tu as rechargé 5 euros. C'est-à-dire que chaque salat que tu accomplis, c'est quoi? Des insectes? C'est l'été, là, ça va commencer. Kafar, khalas, ils nous ont trouvés. C'est chaque fois que tu recharges. Chaque salat, c'est comme si tu remets 5 euros. Théoriquement, après l'accomplissement de chaque salat, tu dois avoir plus de force spirituelle et psychologique. Donc il dit ça, c'est ce fameux thumma tatafakkaru, et vois comment est-ce que cette salat doit te renforcer. Pareil pour la zakat, qui doit te purifier de tout ce qui est mauvais. Donc ça, c'est un résumé des commentaires, pour qu'on réalise que notre relation avec les a'mal salihah, notre relation avec les bonnes actions ne doit pas être juste « je l'accomplis, c'est terminé ». C'est-à-dire tu l'accomplis et tu dois atteindre les objectifs recherchés à travers ces bonnes œuvres. Maintenant, vous allez me dire que oui, mais là, j'ai fait la salat. Quand je sors, je retourne dans, entre guillemets, dans mon monde, qui est le monde de tout le monde. Hein, qui est le monde de tout le monde. Tout le monde vit dans le monde de fitna. Nous vivons dans le même monde. Mais comment est-ce que directement je pourrais tirer profit de ma salat? On donne une piste simple. Quand tu es exposé à une fitna, donnez-moi un exemple. Je veux qu'on ait un discours très clair. Donnez-moi un exemple de péché qu'on peut accomplir à 22 heures. Et ce péché ne nous portera pas atteinte par rapport au regard des gens. Et que c'est un péché qui pourra être fait facilement, discrètement, sans que nous soyons inquiétés. Dites-moi très clairement, quel est le plus grand fléau de nos jours qui touche les adolescents, les jeunes, les moins jeunes, les seniors, les papis? Quel est ce péché? Fitna. Donnez-moi un exemple concret. Zina du regard. De quelle façon?
On peut pas s'empêcher. Si on
fait, à 22 heures, quel péché tu vas faire avec tes yeux? Ou est-ce que tu vas chercher des gens? Voilà. Il n'y a pas plus grand écran que ça, hein, sur le marché. D'accord? Et l'ordinateur, c'est pire. Tu es chez toi. Tu vas juste regarder les informations d'aujourd'hui. Tu vas voir la manifestation, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Tu as des petites fenêtres qui s'ouvrent. Si tu n'as pas de bon... Voilà, des trucs comme ça. Il faut verrouiller. Si tu n'as pas, il y a des trucs, des annonces. Jeune femme, 19 ans, de ton quartier, qui cherche et tout, et tout, des trucs comme ça. Kalla wa hasha. Attention à ne pas cliquer sur le lien. Et wallahi al-azim, il n'y a jamais eu une époque où le haram est aussi facile et accessible. Il y a un cheikh qui faisait un programme pour nous il y a quelque temps, Et il nous expliquait comment est-ce que le portable, là, il ne parlait pas des sites pornographiques, il parlait juste de mukalama, le fait de parler. Il m'a dit que vous êtes à combien dans l'assemblée? Vous êtes à 25. C'est un petit programme en cercle privé. Il m'a dit, je vous mets, il a dit, mettez-moi au défi en 10 minutes, je peux trouver le numéro de l'épouse de n'importe qui d'entre vous, c'est lui qui dit, et téléphoner et avoir un contact téléphonique avec elle. C'est-à-dire qu'il voulait me faire comprendre qu'il se fut une époque où ce genre de fitna, c'était parler avec une femme étrangère, une femme mariée, il fallait trouver l'occasion pour la voir, pour la rencontrer. C'est-à-dire, il y avait des difficultés, entre guillemets, il y avait des barrières. C'est-à-dire, on est à une époque où le péché, tout ce qui est en rapport avec le zina, tout ce qui tourne autour du haram, c'est accessible en quelques secondes. Que ce soit une conversation téléphonique, que ce soit un message écrit, un message vocal, une vidéo, ou alors, pire encore, les images sur les sites, comme on a expliqué, où n'importe qui peut voir n'importe quoi, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, face à ce péché, très concrètement, et il y a beaucoup de personnes qui ont des témoignages anonymes, ou alors des personnes qui nous font confiance, qui nous expliquent très clairement que malgré son assiduité aux prières, malgré sa fréquentation au masajid, ça reste un fléau et ça reste quelque chose qui l'envahit et il n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est une des personnes qui m'en avait parlé. Après, alhamdoulilah, personne ne s'est marié. Mais vous savez, le mariage ne règle pas ce problème. Si le cœur est versé dans la perversité, le mariage ne réglera pas le problème. Le mariage réglera les shahawat, les pulsions. Mais si le cœur s'est habitué à regarder ce genre de choses et que le cœur a ce qu'on appelle en arabe « attama », l'envie, le cœur aime ce genre de haram, il est même le mariage, ça ne suffit pas. Et donc, concrètement, face à ce péché qui est omniprésent, et Allah protège nos jeunes, Allah protège nos enfants, vous achetez un portable, vous donnez à votre enfant, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Vous donnez un portable, vous dites qu'il va m'appeler s'il y a un problème et tout. Mais vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec un GSM. D'accord? Et je ne vais pas vous donner des exemples précis, mais ça ne se fait pas. Il y a un secret professionnel que je dois garder. Je prends le portable d'une fille, d'une jeune fille à la madrasa. Elles ont la consigne, pas de GSM. C'est-à-dire, pas qu'elles n'amènent pas de GSM, il faut être réaliste quand même. Mais n'utilisez pas le GSM, bien sûr, pendant les heures de cours, mais pendant les interclasses. Donc, je surprends une jeune, 15-16 ans, une mise en garde. Elle dit, d'accord, Moulissa, directeur. Je la vois une seconde fois, et moi, je suis très rapide. En une fraction de seconde, j'aurais pu faire pickpocket, Allah protège. En une fraction de seconde, le portable est avec moi, elle n'a rien compris. Et le pire, c'est que ce portable était débloqué. Parce que maintenant, ces jeunes, ils mettent des codes avec des diagonales, c'est terrible, impossible d'ouvrir un portable. Ouvrir un coffre suisse, c'est plus facile que débloquer le portable d'un jeune de 15 ans. N'essayez même pas. Et donc j'ai le portable, et ce que j'ai vu sur, je ne dis pas que la capture d'écran, comment on appelle ça, le fond d'écran. Le fond d'écran, c'était une horreur. C'est une fille, hein, c'est pas un garçon. D'accord? Il n'y a pas de nudité, mais une image d'une obscénité. Une obscénité. J'ai été voir Fundi Hamzé, j'ai dit, moi Hamzé, mais le temps que je l'amène, le portable s'était verrouillé. J'explique que voilà, qu'est-ce qu'il y avait dessus. Et puis j'ai demandé à l'élève de débloquer et j'ai demandé de changer de fond d'écran tout de suite devant moi. Et la personne l'a fait. Je sais bien que je n'ai pas traité le problème là, mais c'était juste pour avoir conscience tranquille. Et je veux dire que ça c'est un fléau. Alors, face à ce genre de situation où personne ne te voit, qu'est-ce que ma salat de Isha va m'apporter? Très concrètement, rappelle-toi à cet instant précis où tu es face à ce péché et que le péché est au bout de tes doigts. Tu cliques et c'est bon. Ou plutôt, tu cliques et c'est pas bon. Rappelle-toi qu'il y a 45 minutes, tu étais en prosternation devant Allah. Il y a 45 minutes, tu étais en génuflexion, tu étais dans la position la plus difficile pour tenir tant au niveau des jambes, des genoux, du dos. Et tu disais, Subhan Rabbi al-Azim. Tu faisais les louanges d'Allah qui est le magnifique, le plus grand, le plus puissant. Allah qui est le plus grand. Et tu disais dans la prosternation, Subhan Rabbi al-A'la. Et essaie de trouver la force dans ces tasbihat. Essaie de trouver la force dans ton attestation. Iyaka na'budu. Oh Allah, j'atteste Iyaka. c'est uniquement toi que nous adorons. Tu viens de le dire ça, tu viens de le dire à ton Seigneur et tu vas à l'encontre de tout ce que tu viens de dire dans la salah, à l'encontre de tes tasbihad. Il faut faire en sorte de trouver la force dans les adhkar de la salah, se rappeler que non, Allah m'a mis sur le droit chemin, Allah m'a amené dans sa maison, Allah m'a choisi pour accomplir la salah il n'y a même pas une heure. Comment est-ce que je peux être aussi ingrat que maintenant, délibérément, je me décide d'aller vers le chemin opposé? Est-ce que je ne crains pas qu'à un moment donné, Allah ferme la porte, qu'Allah nous protège? Allah nous protège. La pire des épreuves, c'est fitnatun fid din. Si tu arrives à une situation où Allah ne te donne plus tawfiq de venir à la salah ou de faire de bonnes actions. Ne croyez pas que ça s'est réservé à des pécheurs endurcis aussi ou à des gens qui sont éloignés de la religion. Allah seul sait qu'il guide vers le droit chemin et qu'il éloigne du droit chemin, qu'Allah nous protège. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous a enseigné une parole d'une grande sagesse dans les épreuves. Il a dit, quand je suis éprouvé, c'est en résumé ce que Umar ibn al-Khattab m'avait dit, quand Allah m'envoie une difficulté, une épreuve, je remercie Allah Azza wa Jal que cette épreuve-là, elle est quand même supportable et qu'Allah ne m'a pas éprouvé plus que cela. Et je remercie Allah Azza wa Jal également que cette épreuve m'a touché dans mon corps, ma santé, ma famille, mes biens ou autre chose, mais que l'épreuve n'a pas touché mon din. Parce que vous savez, Allah protège, mais avoir des doutes de le din, même si après ça, tu vis longtemps en bonne santé avec les bienfaits, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Qu'Allah nous protège. Vaut mieux mourir jeune, vaut mieux mourir subitement, vaut mieux mourir d'une mort que tout le monde va pleurer à 25 ans, il est mort et tout, mais avec iman, dans la foi, que arriver à une situation où même tu as plein de choses, mais il y a une défaillance de ton iman. Ça paraît un peu étrange comme discours. Personne ne doit souhaiter la mort. Personne ne doit souhaiter mourir jeune, au contraire, nous devons tous souhaiter vivre longtemps, mais fit-ta'a. Vivre longtemps, mais de l'obéissance, c'est le doigt qu'on doit demander. Si quelqu'un te dit qu'Allah te donne longue vie, il faut le rectifier. Allah me donne longue vie, fit-ta'a. Dans la droiture. Et le prophète sallam a cité les vertus de cette personne dont la barbe blanchit, fit-ta'a, de l'obéissance. Un homme qui, mashallah, prie depuis son jeune âge, il a maintenant 70 ans, 80 ans, et il a la barbe blanche, et il continue à se prosterner. Ça, c'est ni'ma min Allah. Ça, c'est ni'ma min Allah de vivre longtemps dans l'adoration. Ça, c'est un des plus grands bienfaits qu'Allah nous accorde. Donc, le discours, c'est pas de souhaiter mourir jeune pour éviter les péchés, non. Mais ce que je veux dire, c'est que la pire des épreuves, c'est celle qui touche ta foi. Et attention à ce que la personne, à chaque fois, choisit le mauvais chemin. Ce soir, c'est lundi. Tu avais le choix entre le mauvais chemin et le droit chemin quand tu étais face à ton portable ou à ton ordinateur, tu as choisi le mauvais chemin. Demain, tu vas rechuter. Pourquoi? Parce que lorsque tu accomplis le péché, ben, tu fais un pas vers le haram. Tu diminues ton capital taqwa. Tu diminues ton capital piété taqwa. Tu diminues tes capacités à dire non au haram. Tu diminues ta proximité avec Allah. Et tu te rapproches de Shaytan parce que tu lui as donné raison. Tu as choisi son chemin. Et on peut craindre que le lendemain, si le lundi tu as réfléchi pendant une minute, est-ce que je le fais ou non, on peut craindre que le lendemain, on réfléchira 30 secondes. Et le jour d'ensuite, 10 secondes. Et le jour d'ensuite, on le fera sans même réfléchir et sans même penser aux conséquences du péché, sans même réaliser que c'était un péché. Donc on doit faire extrêmement attention à ces tentations du quotidien et trouver la force à travers les ibadas que nous faisons et demander doua qu'Allah nous accorde l'istiqama. Donc fastaqim kama umirta. L'istiqama, c'est pas uniquement continuer à faire de bonnes actions. L'istiqama, on a donné pas mal de paramètres en introduction. L'istiqama, c'est l'istiqama ala al-a'mal as-saliha, mais l'istiqama, c'est également l'istiqama fi tark al-munkarat, tark al-muharramat. Dans le mois de Ramadan, tu as démarré une bonne action, qiyamul layl, prière de la nuit, l'istiqama, c'est de continuer. Ou alors, durant la première des quatre de Dhul-Hijjah, tu as pris la bonne habitude de prier la nuit, ou de jeûner, mashallah, de façon intensive. Garde ce rythme, lundi, jeudi, 13, 14, 15, au mieux. Mais durant sa période de Ramadan ou de la première des quatre de l'Hijja, tu as pris une bonne habitude également, c'est d'abandonner un péché qui t'était nuisible. C'est itlaqul basar. Itlaqul basar, c'est le contraire de raddul basar. Raddul basar, c'est contrôler le regard. Et itlaqul basar, c'est de se donner aucune limite dans le regard. C'est comme si que c'est free, c'est comme si que c'est open, c'est comme si qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas le regard d'Allah sur toi, il n'y a pas les malaïkas qui inscrivent les péchés. Durant ce mois béni, durant la première décade, tu as pris la bonne habitude de contrôler le regard. Istiqama, c'est également ça. Istiqama dans l'éloignement des péchés. Et ça, c'est un ordre divin. Fastaqim kama umirta, et c'est un objectif à atteindre. Donc voilà, on reprend un petit peu l'introduction concernant l'istiqama. Et de le verser, le second verset après Fastaqim kama umirta, on a un verset de sourate Fussilat beaucoup plus connu. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. On avait expliqué ça il y a deux semaines. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite ils restent fermes, fermes dans la foi et fermes dans l'ibada. Et en commentaire, il est dit que pour avoir vraiment istiqama, il faut tout d'abord ithbat de Rabbunallah. Rabbunallah, notre Seigneur est Allah. Ça veut dire que tout va démarrer par le tawhid, l'unicité d'Allah. Tout va démarrer par les aqidah sahiha, par la croyance en Allah Azza wa Jal. Développe iman billah. Connais ton Seigneur. Connais les noms et les qualités d'Allah Azza wa Jal. Connais devant qui tu te prosternes. Connais pour qui tu t'éloignes, tu t'abstiens de manger, de boire quand tu jeûnes. Essaie de connaître le Seigneur qui est Al-Azim, pour qui tu contrôles ton regard parce que au-dessus de toi, il y a Al-Azim. Et quand le croyant va développer Amantu Billahi, nous on connaît Amantu Billahi, wa malaikati, wa kutubihi, wa rasuli, wa liyomil akhir, wa al-qadri khayri, wa sharim, wa al-dhaï ta'ala, wa al-ba'athi ba'd al-maut. On connaît les piliers, les branches de la foi. Mais ça commence toujours par Amantu Billahi. Et quand nous lisons l'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, mais l'unicité d'Allah, il est nécessaire pour que ce tawhid soit complet, de connaître tawhid, man tawhid. Tu proclames l'unicité de qui? Connais ton Seigneur. Et quand Aman tu billah rentre dans le cœur, là, on a plus de constance et de qualité dans les a'mal saliha, et là, tu pourras thumma istaqamu. Mais une action accomplie de façon superficielle. La salat que nous faisons comme un rituel, ce n'est pas une action qui automatiquement t'amènera vers l'istiqama. Est-ce que ça c'est clair ça? C'est peut-être un petit peu complexe, mais quand tu connais ton Seigneur, tu te délectes de le nectar qu'il y a dans le sujoud. Quand tu connais Allah, ben, ce sujoud-là, la prosternation, elle a beaucoup de valeur pour toi. Parce que tu sais devant qui tu es en train de te prosterner. Quand tu dis Iyyaka na'bud, tu pourrais le répéter des centaines de fois parce que tu as envie de dire Ya Allah, Iyyaka na'bud, et parfois on a envie de le dire fort, Iyyaka na'bud, et souhaiter que l'ange de la mort reprenne mon âme alors que je suis en train de proclamer Iyyaka na'bud. C'est uniquement toi que nous adorons. Parce que ça résume ma vie. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah nous a créé pour son ibadah. Et là, tu es en train de dire quoi? Iyyaka na'bud. Même si on n'est pas arabophone, mais illa liya'budun, pour faire son adoration. Et là, tu dis Iyyaka na'bud. Tu es en train de réaliser l'objectif de ta création. Tu es en train de, un autre, de prononcer, de mettre des paroles sur l'objectif de ta création. Ça, c'est kalimatul haqq. Et donc, essayez de trouver cette lumière qu'il y a dans la salat en connaissant ton Seigneur. Et là, on aura, Inch'Allah, là, la fermeté qu'Allah nous l'accorde. Ça, c'était ce qu'on avait expliqué un peu la dernière fois. Maintenant, celui qui, Inch'Allah, a su développer ses qualités, Iman Billah, Ibadah, également, Istiqama ala l'Ibadah. Et pourquoi Istiqama ala l'Ibadah? Parce qu'il ressent halawa de l'Iman. Ça s'enchaîne, ça. Tu connais Allah, tu accomplis les bonnes actions avec sincérité, avec dévotion. Tu ressens halawatul iman, tu ressens la douceur de la foi parce que l'adoration d'Allah devient al-raya, l'objectif de ta vie. Et donc, tu restes ferme, jamais tu n'abandonnerais ça pour rien au monde. Istiqama, ben ces personnes-là, quelles sont les récompenses? On va être rapide, je n'ai pas colométré aujourd'hui, je ne sais pas on en a combien de temps. Qu'est-ce qui est annoncé de ce verset? Thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Il est cité de ce verset que les anges descendent auprès d'eux. Malak ba'da malak. Tanazzalu alayhim al-mala'ika. Pas un seul ange. Les anges vont s'enchaîner pour venir auprès de cette personne. Mais c'est à quel moment? Allah takhafu wa la tahzanu fi mawtin mukhawif. Et en commentaire, il dit que ces anges viennent vers toi dans les moments les plus effrayants. Et voilà, voyez là, subhanallah, entre le moment le plus effrayant de la vie d'un être humain, c'est quoi? C'est la fin de la vie, c'est la mort. Tout le monde a peur de la mort. Personne ne peut dire « j'ai pas peur de la mort ». Il peut faire le coq de son quartier, il peut dire que « moi, m'a pas peur, rien et tout, m'a pas peur ». Tu as pu connaître tout ce qui existe. La mort, il n'y a rien de plus effrayant pour un être vivant. Parce que ça, c'est mufaraqat al-ruh. C'est le ruh qui quitte l'âme, qui quitte le corps. Juste un exemple décalé. Hein. Lorsqu'il y a le udhiya, on a vu le udhiya, le jour de sacrifice. Lorsque vous voyez l'animal, avec quelle difficulté son ruh quitte son corps. Vous le voyez, même les veines jugulaires qui sont sectionnées, vous voyez qu'ils bougent, on sent qu'il y a encore, c'est toujours là, avant que l'âme sorte. Et ça te fait réfléchir sur. Comment est-ce que l'âme quitte le corps de l'être humain? Il est ambiya, alayhi salat wa salam, ont donné des explications, des descriptions. C'est le moment le plus effrayant pour un être vivant. Avant de parler de l'être humain, pour un être vivant. Et dans ce moment, de ce mountain, le moment le plus effrayant, là, le verset concerne cet instant. Tatanazzalu alayhimul malaika. Quelle plus belle visite au moment de mourir que la visite des malaika, que la visite des anges. Quitter ce dunya, alors que tu as des anges qui sont près de toi. Et tu les vois comme moi, je suis en train de vous voir. Et vous les voyez comme vous me voyez, on se regarde mutuellement. Qu'Allah nous accorde cette vision au moment de mourir. Et il y a plein de versets qui vont dans le même sens, qui décrivent la vision du mu'min avant de mourir. Ce qu'il voit et que personne d'autre autour de lui ne voit. Parce que là, il est dans un autre monde. Il est dans un monde parallèle. Il a mis un pied dans le monde du ghaib, le monde de l'invisible. Que toi, tu vois la personne en soins intensifs, branchée, masquée, oxygénée. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de parole, il n'y a plus de signe de vie. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il y a toute la famille autour du lit à l'hôpital. C'est des scènes que j'ai vécues et qu'il est parfois nécessaire de t'y repenser et de se dire que tout ce que tu as vu là, ben tu n'as rien vu en fait. Toi, tu as vu la famille, tu as vu frère, soeur, cousin, cousine autour du grand-père, tu as vu la personne, tu as vu les appareils, tu as vu les infirmières, mais tout ce qu'il y a autour, tu as vu un lit d'hôpital et des proches qui pleurent le départ de la famille d'un proche, d'un parent. Mais tu n'as rien vu. Tu as vu avec tes yeux de insan, mais tu n'as pas vu les malaïka. Dans certains hadiths, on parle de combien d'anges? De 500 malaïka qui viennent annoncer la bonne nouvelle les uns après les autres. Là, dans Ibn Uthaymin, il dit les uns après les autres. Dans d'autres hadiths, commentés par Al-Qurtubi, rahimahullah, il parle de deux rangées de malaïka. Comme nous, on fait, quand on porte un maillet, on ne fait pas deux rangées? Pour qu'une rangée porte côté droite, une portée côté gauche. Ben, il y a peut-être quoi? 30 personnes là, 30 personnes jusqu'à la sortie de la masjid jusqu'au camion. Mais imaginez que vous voyez 500 malaïka en rang et qui vous annoncent la bonne nouvelle. Et ça, c'est de la sourate Al-Fajr wa layalin 'ashr. Ya ayyatuhanna fulmutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ça, c'est magnifique ça. Qu'Allah nous accorde la possibilité de voir ces malaïka. Et de les entendre nous annoncer la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait. Il y a plein de hadiths qui expliquent ce que les anges annoncent aux défunts. Et donc, dans ce moment où normalement tout être humain, tout être vivant a peur, les anges viennent, la plus belle des visites. Et qu'est-ce qu'ils vous annoncent? Allah takhafu. Deux choses. La takhafu wala tahzanu. Parce que la personne qui quitte ce dunya a peur et la personne est triste. On commence par le deuxième sentiment. Pourquoi la tristesse? La tristesse de laisser sa femme, de laisser ses enfants, de laisser ses petits-enfants. On a toujours cette angoisse, mais qui va s'occuper de you, non? Ça, c'est la réaction d'un père de famille. Si l'ange d'un mort vous prend maintenant, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est mes enfants. Oui ou non? Qui va s'occuper d'eux? Qui va les amener à l'école et ainsi de suite? Ça, c'est la réaction d'un père. Mais les anges te disent, voilà, tahzanou, ne soyez pas triste. Et la première bonne action, la première bonne nouvelle, c'est la plus importante, Allah takhafou. Parce que hada mukhif, ce que tu es en train de vivre, ça fait peur. Mais les anges, ils viennent et te disent, Allah takhafou. C'est comme si que Allah nous protège de cette situation. Vous allez subir une intervention chirurgicale. Vous êtes sur le brancard, là, juste avant d'entrer dans la salle d'opération. Vous angoissez. Vous avez peur. Et qui c'est qui vient vous voir? C'est le chirurgien en personne. Il vous dit, n'ayez pas peur. C'est quelque chose de simple, ça. Je le fais tous les jours. Ça va bien se passer. Ça va prendre 10 minutes. C'est lui qui vient vous dire, c'est un peu plus rassurant. C'est quand même plus rassurant. C'est un exemple décalé, hein, bien sûr. Mais que les anges, ils viennent, ils te disent, Allah tahafou. Parce que tu sais également que les anges qui sont en train de te dire, ben, ils sont en train de te dire, c'est un ange même qui vient reprendre ton âme. Eux, ils viennent te dire, n'aie pas peur. Ça va venir, là. L'ange de la mort arrive bientôt. Mais c'est un ange comme nous, ça. Nous faisons partie du même monde. Et lui, il va venir, mais il va prendre soin de toi. Tout ça, il n'y a pas plus belle parole que d'entendre les réconforts et les encouragements des malaïka au moment où tu quittes ce dunya, parce que quand tu quittes ce dunya, tu retournes auprès d'Allah. Et les meilleurs des créatures d'Allah, ceux qui sont près du trône d'Allah, ceux qui font l'adoration d'Allah, ils te disent, n'aie pas peur. C'est-à-dire que la bonne nouvelle qu'ils t'annoncent, c'est « ala ilmin wa basira ». Ils savent ce qu'ils te disent. Et s'ils viennent te le dire, c'est qu'ils ont reçu l'ordre d'Allah, la permission d'Allah de te le dire. Et s'ils te le disent, ne se trompe pas. C'est pas qu'ils te disent que n'aie pas peur, c'est au moment de mourir, ça va bien se passer. Mais, ah ben, on savait pas, par contre, la tombe, il y a un châtiment qui t'attend. On ne savait pas. C'est pas comme ça. C'est pas des créatures qui parlent, comme on dit, dans le vide ou qui t'annoncent quelque chose sans connaître la suite. Quand ils te disent, Allah takhafou, c'est la takhafou al-an, et la takhafou jusqu'au Jannah, il n'y a rien à craindre. La tahzanou al-an, maintenant, et la tahzanou abadan. Jusqu'à ce que tu rencontres tes seigneurs. N'est-ce pas là la plus belle des bonnes nouvelles? Mais la condition c'est Rabbunallah thumma istaqamu. Allah nous accorde ces qualités. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya'ni anna al-malaika tatanazzalu alayhim bi amrillah. En commentaire, il dit, ils viennent par l'ordre d'Allah fi kulli mawtunin mukhif wa la siyama 'inda al-maut. Et certainement au moment de mourir. Allah takhafu wa la tahzanu ay la takhafu fima tastaqbiluna min umurikum wa la tahzanu ala ma mada min umurikum. Moi, j'étais parti sur un autre commentaire, la tahzanu, c'est par rapport à ce que tu laisses, les personnes que tu laisses, mais en commentaire ils disent également la tahzanu ala ma mada min umurikum, ne sois pas triste pour tout ce qui a pu se passer avant. Parce que là, la bonne nouvelle qu'on t'annonce, c'est sois rassuré, il n'y a pas rien. Il n'y a rien qui va t'inquiéter, il n'y a rien qui va t'attrister. Alors, ça, c'est des nouvelles magnifiques, mais ça ne se termine pas là. Il y a wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et les anges annoncent la bonne nouvelle de bil janna. Et recevez la bonne nouvelle, traduction approximative, et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Wal bushra hiya. Al-Ikhbar, bon, le commentaire était un peu long, et en résumé, on pourrait dire que la plus belle nouvelle qu'un vivant peut recevoir au moment de mourir, c'est n'ayez aucune crainte, ne soyez pas triste, et on vous annonce la bonne nouvelle du Jannah. C'est-à-dire que, c'est ça pourquoi on dit que la bonne nouvelle, c'est dans la continuité, c'est jusqu'à la fin des étapes. C'est pas uniquement, il t'a dit n'aie pas peur maintenant, ou ne sois pas triste maintenant, il t'annonce le Jannah. C'est-à-dire donc, depuis maintenant, au moment du gharghara, de l'agonie, et le moment de mourir, c'est jusqu'au Jannah, la takhafu wa la tahzanu. Et est-ce que dans le Jannah, il y a khawf et huzn? Non. Dans le Jannah, il n'y a ni crainte, ni tristesse. Donc, il y a que, c'est le ticket de sortie de ce dunya avec ridallah, avec le contentement d'Allah. On va s'arrêter là, c'est un peu long. La prochaine fois, on va reprendre avec l'autre bonne nouvelle. Donc là, on a vu Allah takhafu. ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et on verra, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Et les autres bonnes nouvelles annoncées par les malaïka, الشرط إيمان en Allah, connaître Allah, l'adoration d'Allah, ressentir le plaisir de l'ibada et rester ferme. Qu'Allah nous accorde ces qualités jusqu'à la moment tawfiq illa billah. Ayez une pensée pour une sœur qui nous a quittés aujourd'hui. Une sœur qui nous a quittés aujourd'hui, qui travaillait à la madrasa, enfin la médersa, comme on dit, section française, en petite section, elle s'occupait des enfants, et c'est une personne qui a beaucoup souffert d'un cancer. Elle est décédée aujourd'hui, après Allah Musta'an, après beaucoup de souffrances, qu'Allah Rabbul Izzah, de sa clémence, lui accorde le Jannat al-Firdaus, que sa tombe soit un jardin du paradis, et qu'Allah accorde Sabrun Jamil à ses proches. Et quand on voit le message qui annonce le décès de cette personne, elle s'appelle, subhanallah, si je retrouve, je voulais voir son nom avant sa reconversion, elle s'appelle Yumna. D'accord? Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir Madame Klein Nathalie. Elle s'appelait Nathalie. Et Allah Azza wa Jal, Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah Azza wa Jal l'a tiré de Nathalie pour l'amener vers Yumna et de quitter ce dunya avec shahada. Et ça, c'est ajib. Une personne qui avait accepté l'islam, mashallah, à une époque de sa vie. Et donc, ça c'est Bouchra, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et on fait doigt pour ses proches, doigt de Hidayah, au cas aussi dans le membre de sa famille, pas tout le monde avait accepté l'islam, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde la guider, et qu'Allah fasse de sa tombe un jardin du paradis, et que le jour de Qiyama, cette personne entre au Firdaus al-A'la min al-Jannah, bighayri hisab, pour tout ce qu'elle a connu comme souffrance de ce dunya. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam explique que ma yazalu al-bala bin abd al-mu'min hatta yamshi 'ala al-ard wa ma 'alayhi min khati'a. Quand Allah éprouve une personne et que les épreuves te fracassent, j'aimerais dire fracassent. Il y a des fois où on sent les épreuves, ça te prend dessus, tu te dis que waouh, mais c'est énorme, c'est fort, c'est permanent, ça ne s'arrête pas. Mais quand tu vois les épreuves qui s'enchaînent lundi, mardi, mercredi, sans arrêt, sache qu'Allah Rabbul Izzah est en train de t'envoyer des difficultés, mais tu n'imagines même pas, tu es en train de marcher à l'ard, sur la terre. Vous voyez la métaphore, tu vis avec tes semblables. وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَ. Dans ton livret de compte, si c'était possible de voir, s'il existait un appareil branché pour voir combien de péchés tu as commis, de bonnes actions, si c'était possible, on verrait que le livret de compte, il y a les péchés, ce livret de compte est vide et vierge. Il n'y a pas un péché. Pourquoi? Chaque douleur, chaque souffrance, chaque difficulté est en train de laver tes péchés, et que cette personne, comme elle enchaîne les difficultés, mais elle vit des jours et des jours sans qu'il n'y ait le moindre péché de son livret d'action, et la personne rencontre Allah dans sa situation, et Allah Azza wa Jal est tellement clément que sans le moindre doute, Allah fera accéder cette personne au Jannah. C'est le doua que nous faisons pour cette personne et pour les défunts. Wa jami' amwat al-muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.